À voix nue, Guillaume Erner, cette semaine avec
Bernard-Henri Lévy. Je suis écrivain, philosophe et je fais des films.
Troisième épisode, un dandy engagé. Bernard-Henri Lévy, bonjour. Merci de nous recevoir à nouveau dans votre appartement parisien. On vous a quitté étudiant à Normale Sup. Pourquoi n'êtes-vous pas devenu professeur ?
Oh, je ne sais pas très bien, mais la vie, c'est comme ça. C'est un enchaînement de malentendus, de fautes de quart, ou peut-être d'erreurs heureuses. Mais c'est vrai que ça s'est très vite joué comme ça. Au moment des nouveaux philosophes, peut-être mes attaques contre l'université telle qu'elle fonctionnait à l'époque, le ressentiment d'universitaires à mon endroit, un événement qui eut lieu à l'époque qui s'appelait les états généraux de la philosophie, qui a donné lieu à presque une échauffourée et des bagarres. Il doit y avoir des photos de Jacques Derrida et moi nous empoignant physiquement. Tout ça fait que je suis sorti de l'université à peine après y être entré. Alors j'étais prof un peu. Pendant 2-3 ans, j'ai été chargé de cours à l'université de Strasbourg. Je donnais des cours d'épistémologie. J'ai donné des cours à l'école normale de la rue d'Ulm. Je me souviens, dans les années 73, 74, 75 peut-être, d'un cours qui s'appelait « Politique de Nietzsche ». Mais tout ça a tourné court pour les raisons que je vous dis. Voilà, parce qu'il y a eu quelque chose d'assez frontal entre moi et l'université de l'époque, qui fait que ça s'est terminé.
Vouliez-vous être célèbre ? Vous disiez-vous, par exemple, que vous vouliez avoir un rôle public plus important que celui d'un enseignant, Bernard Lévy ?
Non, vraiment, ce n'était pas le sujet. Je crois vraiment que tout cela était plus contingent, plus aventureux et plus par hasard qu'on ne pourrait le croire. Vous savez, quand La barbarie visage humain sort...
Donc nous sommes en 1977.
1977. J'ai un éditeur qui n'y croit pas beaucoup, Grasset. Le livre est tiré, je crois, à 2 000 ou 3 000 exemplaires. Il y a eu cette émission qui restait un tout petit peu fameuse d'apostrophe, où vraiment j'arrive avec une décontraction, mais qui me sidère moi-même rétrospectivement. Je ne joue rien, je n'ai pas le sentiment qu'il y a un enjeu. Je suis d'une décontraction totale et vraiment, cette idée-là, être célèbre, avoir une influence, elle est très très loin du jeune homme que je suis, vraiment. Je pense à d'autres choses, mais pas à ça.
Vous enchaînez donc un certain nombre de livres qui recueillent à la fois grand succès, polémique grandissante, Le Testament de Dieu en 1979, c'est le moment où vous retrouvez votre identité juive, votre judaïsme.
Oui. Il y a deux choses. Il y a les polémiques. C'est vrai que dès 77, dès La barbarie, je fais face à des attaques qui me sidèrent, quand j'y repense aujourd'hui, d'une très grande violence tout de même. Alors j'étais violent aussi, hein. Je n'épargnais pas les coups que je donnais. Mais enfin, j'en ai reçu beaucoup.
De qui ?
Ah, je me rappelle des attaques de Gilles Deleuze, un article dans Le Monde de l'époque. Je me souviens Pierre Vidal-Naquet, Cornelius Castoriadis, des grands noms de l'époque et des grands noms tout court d'ailleurs.
Que vous reproche-t-on à l'époque et que répondez-vous, Bernard-Henri Lévy ?
On me reproche tout. Il y a un article de Maurice Clavel très drôle qu'il publie là, probablement à l'été 77, où il dit qu'on me reproche d'être. Voilà. C'est pas tout à fait vrai, parce que on me reproche aussi des thèses. On me reproche une façon de faire de la philosophie à la première personne. On me reproche aussi, si je veux être tout à fait honnête, une façon d'aller trop vite. Il y avait des erreurs factuelles, de dates, de choses comme ça, dans le Testament de Dieu, qui avaient été relevées très, très cruellement par un de mes contradicteurs de l'époque, peut-être Vidal-Naquet. On me reproche tout ça, mais moi, je crois que le fond de l'affaire, il est politique. Enfin, venir dire en 1977 qu'il faut rompre définitivement avec la tradition progressiste sans tomber pour autant dans le déclinisme, comme nous le disions hier, venir dire en 79 qu'il y a autant de philosophie dans le Talmud que dans Aristote et dans Platon, et que moi, en tout cas, ça me fait au moins autant penser et que mêler les deux souffles, le souffle hébreu et le souffle grec, est une grande et noble et féconde manière de faire de la philosophie, tout ça, c'est pas toujours audible dans la France laïque. Sur la question du testament de Dieu, dans la France qui a tout de même un problème, déjà, avec l'exception juive, avec le texte juif, elle prétend avoir rompu, évidemment, avec les pires formes de l'antisémitisme, mais pas toutes. Et puis là, en 79, la Shoah, la tentative de liquidation du non-juif, tout ça n'est pas encore vraiment pensé. Hein, c'est l'époque, quand je publie le Testament de Dieu, c'est avant le film de Lanzmann, ça doit être après le chagrin et la pitié. Voilà, il y a un énorme impensé encore sur tout ça. Et quelqu'un qui vient dire, pour penser, voir la Torah, voir le Talmud, voir Lévinas, qui était la grande découverte de ce moment-là, en effet, ça passe pas.
Mais alors, sur le plan personnel, vous, le juif laïque, n'avez pas fait votre bar mitzvah, qu'est-ce qui vous permet, qu'est-ce qui vous conduit à rencontrer comme ça le judaïsme, à construire votre judaïsme, Bernard-Henri Lévy ?
Comme toujours, une rencontre humaine. C'est la rencontre avec deux personnes, au fond. Emmanuel Lévinas et Albert Cohen. Voilà, ce sont les deux rencontres décisives pour moi de ce moment, et c'est certainement les deux sources du Testament de Dieu. Albert Cohen, que je vais voir régulièrement à Genève, avenue Krieg, dans l'appartement d'où il ne sortait plus, et Lévinas, que je vois à Auteuil, dans cet appartement bourgeois étrange qui lui ressemblait pas et où nous commençons une interlocution qui me bouleverse, quoi, qui change tout. Enfin, pas qui change tout, qui me permet de continuer. Voilà. Disons les choses autrement. Après la barbarie visage humain et cette espèce de coup de boutoir que j'ai donné, je pense que je me serais arrêté, que tout se serait enrayé si je n'avais pas rencontré le texte juif. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il y avait un livre, au fond, il répond à des questions et puis il en pose d'autres, qui restent ouvertes. Ouvertes sur quoi ? Ouvertes sur le prochain livre. Eh bien, les questions ouvertes par la barbarie visage humain, si je ne m'étais pas donné les moyens, ou le début des moyens d'un début de pensée juive, je ne les aurais pas fermées et je n'aurais pas continué. C'est aussi simple que ça, j'aurais arrêté.
Et alors, au fond, est-ce que l'on peut considérer que l'idéologie française, en un sens, est la continuation du testament de Dieu ? Idéologie française, c'est 1981. Cette fois-ci, vous traquez une tradition, qui est une tradition française, celle de l'antisémitisme. Est-ce que c'est la suite logique de cette... Je ne sais pas comment l'appeler, découverte, redécouverte de votre identité juive.
D'abord, ce n'est pas seulement l'antisémitisme, c'est ce que j'appelle à l'époque le péténisme transcendantal. C'est ça le sujet de l'idéologie française, hein, ce péténisme transhistorique qui commence avant, qui finit après, dont je pensais qu'il était toujours vivant dans la France de Giscard d'Estaing, la France de... On est en 1981. Donc ma cible, c'est ce péténisme transhistorique. Après... Quelle est la genèse d'un livre ? Beaucoup de choses, bien sûr, y compris d'ailleurs des données personnelles, biographiques, dont je vous disais un mot dans notre première conversation sur mon rapport personnel aux racines. Je pense que l'idéologie française, c'est le livre d'un type qui connaît pas son lieu de naissance, qui ne l'a jamais vu, qui n'en a pas d'image, comme je vous le disais, et qui se sent ou qui se fantasme ou qui s'imagine fils d'une idée avec un grand I, et jamais d'un sol, d'un paquet de morts ou de choses comme ça. Donc c'est la Légion française, elle est fille de ça. Mais elle est fille aussi, probablement, et là je viens à l'antisémitisme, de quelque chose que j'ai découvert au moment du Testament de Dieu. Toujours pareil, un livre se ferme sur des questions ouvertes. Bon, qu'est-ce que je découvre avec le Testament de Dieu ? C'est l'incroyable bœuf sur la langue française qu'est la question de l'antisémitisme et qu'est la question du fascisme français en général. Parce que dans le Testament de Dieu, je vous le répète, ce qui était le plus choquant, c'est de venir mettre au centre du village de la pensée le texte juif. Cela a été... vu comme une incongruité à l'époque. Pourquoi incongruité ? Parce qu'il y avait vis-à-vis du texte juif, de l'exception juive, du non-juif, une espèce d'embarras très grand. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Ben, je vais sonder l'embarras, je vais scruter l'embarras. Et ça donne l'idéologie française. Et les livres, c'est comme ça, hein.
Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour vous, il y a une identité française, il y a une France qui a été laboratoire du fascisme, comme le dit Sternel. Comment diriez-vous les choses, Bernard-Henri Lévy?
Il y a une histoire française qui, disais-je, dans l'idéologie française, a une part de lumière et de gloire. Les communards, les maquisards, les dreyfusards, d'accord? Et puis qu'il y a une part immense d'ombre et même de nuit, et qu'il y a une espèce dans la manière qu'a la France de faire communauté, il y a au fond de ça, il y a encore une fois des choses absolument magnifiques. Moi, je suis français jusqu'au bout des doigts, mais il y a aussi un fond fangeux dans lequel j'avais le sentiment que nous étions tous pris. Je me souviens d'un article sur mon livre de Jean Toussaint de Santi, un nom qui ne doit peut-être pas dire grand-chose au plus jeune de nos auditeurs, mais enfin qui est un philosophe majeur et qui a beaucoup compté dans ces années-là, très important, qui prend la défense de l'idéologie française. Et je crois que c'était sa métaphore, une espèce de marécage dans lequel tout locuteur français se trouve pris, certains jusqu'aux chevilles, certains jusqu'aux genoux, et certains jusqu'à en être engloutis. Et l'enjeu de la pensée à l'époque me semble être de se dresser au-dessus de ce fond glauque, de ce fond noir que j'appelais l'idéologie française. L'idéologie française, c'était pas la pensée française, évidemment. C'était pas la philosophie française. C'est le titre s'inspirait du titre de Marx, l'idéologie allemande. Et c'est ça, c'est ce fond. Ce fond glauque.
Mais alors, le paradoxe, c'est que parmi les gens avec qui vous discutez, peut-être pourrait-on dire qu'il est votre ami, même si l'amitié est complexe avec cet homme, c'est François Mitterrand. Il fait un portrait de vous élogieux dans L'Abeille et l'Architecte en 1976. Et en 1981, quand ce texte paraît, il est promis à d'autres fonctions. Et cependant, cette idéologie française, c'est en grande partie, en quelque sorte, l'idéologie qui l'incarne.
Absolument. Et l'un des cœurs de l'idéologie française, d'ailleurs, c'était cette apparente énigme qui fait que les mêmes ont pu être pétainistes puis résistants sans changer vraiment d'idéologie. Voilà. Et Dieu sait, la résistance, pour moi, c'est la plus noble confrérie du monde, c'est ce qu'il y a de plus grand dans l'histoire de France, et je révère les grands résistants. Mais je sais qu'il y a eu aussi, dans ce moment-là, chez un certain nombre de gens, une drôle de démarche. Intention de construire une version française de la révolution européenne qui se passait à l'époque, qui s'appelait le fascisme, découverte au moment où l'Allemagne envahit la zone libre, qui aurait plus de version française, parce que c'était la chape de plomb allemande sur l'ensemble du territoire. Et à ce moment-là, sans renoncer au rêve de cette version française du fascisme, en gros, passage à la résistance contre les Allemands. Ça, c'était ce qui a le plus choqué dans l'idéologie française. Voilà. Et le jeune Mitterrand, c'est l'incarnation de ça. C'est l'incarnation de quelqu'un qui a partagé la méfiance des pétainistes à l'endroit de la démocratie, du libéralisme, du droit, qui a pensé vraiment que tout ça était chose passée, que c'était un modèle de société qui avait fait son temps. Il a vraiment cru ça. Et qu'il fallait que la France se mette à l'heure de ce qui était en train de se produire en Europe. Puis un beau jour, novembre 42, et il se réveille, la France est entièrement sous la botte allemande. Ben, il dit non, moi c'est pas ça que je voulais, et il passe à résistance. Donc, évidemment qu'un personnage comme Mitterrand est au cœur de cela. Je le savais. Il savait que je le savais, malgré nos relations anciennes et très amicales, enfin très... Et là, il entre à l'Élysée. Juste avant son entrée à l'Élysée, nous nous revoyons. Et puis, installé à l'Élysée, il me demande de venir. Avec une interview que j'avais donnée à un magazine, très sévère, contre le premier gouvernement Mitterrand. Et puis avec le livre « L'idéologie française » à côté de lui. Et on en parle. Au marteau, hein, Nietzsche, c'est-à-dire des points du livre qu'il me demande d'élucider, sur lesquels il me demande de m'expliquer, dont il me dit pourquoi il lui semble inacceptable. Rendez-vous surréaliste, quoi, dans ce palais de l'Élysée, une sorte de dispute surréaliste avec l'homme qui était devenu président de la République française, autour du livre.
Mais alors, est-ce que justement, là, il vous fait des confidences sur son véritable destin, ce qu'on a appris à la fin? Est-ce qu'il le décrit en filigrane?
Non. Non, non, il ne me fait aucune confidence. Je pense à l'époque que ce qu'on allait découvrir plus tard, la Francisque, Bousquet, etc., que tout ça, c'était des calomnies de minutes, le torchon d'extrême droite. Mais je savais qu'il y avait un problème idéologique, quoi. Je savais que François Mitterrand, c'était, pour reprendre la métaphore de Jean Toussaint de Santy sur l'idéologie française, qu'il s'était arraché en grande partie au marécage. Et puis je savais que ça revenait de temps en temps. Quand un de ses ministres de l'époque, qui s'appelle Jean-Pierre Chevènement, disait qu'il fallait continuer la lutte des petits contre les gros, quand il opposait le capital national au capital cosmopolite, c'était peut-être Pierre Mauroy, je ne sais plus. Il y avait là quelque chose qui, pour l'oreille de l'auteur de l'idéologie française, sonnait évidemment comme un reste de fidélité au marécage.
Alors, à ce moment-là, vous êtes sous le feu croisé de la gauche, qui considère que vous n'êtes pas la vraie gauche, vous êtes une gauche en réalité au service de la droite, vous, plus largement d'ailleurs les nouveaux philosophes, et puis la droite qui vous attaque parce que l'idéologie française, via notamment l'école du Riage, la vise en partie. Raymond Aron qui publie un article sévère sur le bouquin. Votre réaction, Bernard-Henri Lévy?
Ah, ben, je suis très content. Je suis absolument ravi. J'ai le sentiment que j'ai touché doublement juste, quoi. Contre la gauche totalitaire, contre la droite totalitaire. Et que, avec ces trois premiers livres, là, j'ai fait une espèce de grand chelem du coup de pied dans la fourmilière française, dans ce que je n'aime pas dans ce pays. Cette gauche archaïque, qui d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui n'en finit pas de mourir, cette gauche totalitaire, cette gauche hostile à tout ce que j'aime, qui est la liberté du sujet, etc. Et puis cette extrême droite que je sens monter, qui a aujourd'hui le visage du lepénisme ou de Zemmour, etc. Avoir ces deux-là contre moi, voir sortir des pétitions des officines des uns ou des officines des autres, demandant à l'époque quasiment mon interdiction professionnelle. Je me rappelle une pétition qui avait dû sortir peut-être de la revue Esprit, époque Paul Thibault, qui devait s'intituler « Qui écrit un brûlot doit s'attendre à être brûlé ». Et qui s'adresse à tous les modernes directeurs de conscience, alors qu'ils étaient les directeurs de journaux, en gros, et apostrophe Bernard Pivot, en disant qu'il fallait m'interdire d'antenne et faire en sorte que je m'exprime moins. Je trouve ça magnifique. Voilà. C'est ce que je voulais. Qu'est-ce que peut rêver de mieux un intellectuel?
Des attaques personnelles, vous parliez, par exemple, du symbole cosmopolite. Vous en êtes un, je ne sais pas à partir de quelle période cela a été, mais parmi, donc, les critiques, les insultes qui vous sont adressées, il y a la dimension anti-juive, le pouvoir, la richesse. Là aussi, comment vous réagissez, Bernard-Henri Lévy?
Moi, vous savez, dans ces affaires-là, je réagis, j'espère, avec beaucoup de sang-froid. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est pas mon cas. Ce qui m'intéresse, c'est le symptôme. Les attaques dont j'ai été l'objet, dont je suis encore l'objet aujourd'hui, d'ailleurs, ne m'affecte pas, n'entame pas la confiance que je peux avoir dans en la justesse de mes combats, en la nécessité de continuer le chemin et d'écrire encore des livres et de faire encore des films. Ça ne change rien. En revanche, il y a des symptômes, et ça m'intéresse. Je sais les interpréter, je crois, enfin j'essaye de les interpréter, je sais le faire, et quand j'entends en effet des propos comme ceux dont vous parlez, ben, j'y vois perdurer, j'y vois se métamorphoser, j'y vois se métastaser, par exemple, l'antisémitisme.
Justement, Bernard-Henri Lévy, dans les attaques dont vous êtes l'objet, il y a une dimension personnelle. On souligne, par exemple, votre allure, la chemise blanche que vous portez, le fait qu'il y ait un personnage. Comment ce personnage s'est-il construit et quel est votre rapport, justement, à ce personnage?
Il s'est construit dans le regard et le discours des autres, franchement. Écoutez, la chemise blanche, par exemple, vous avez une chemise blanche aussi, là, voilà. Et quoi de plus banal qu'une chemise blanche? Quoi de plus simple? Donc l'histoire, elle est d'une pauvreté, mais accablante. Depuis la nuit des temps, la nuit de mes temps à moi, comme toutes ces histoires d'habillement ne m'intéressent absolument pas, j'ai considéré qu'avoir une chemise blanche était la manière la plus simple de ne pas s'embêter à la vie le matin. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Mais en revanche, dans le regard d'autrui, pour des raisons qui m'échappent, cela est devenu une affaire. Et tellement une affaire, d'ailleurs, je vais vous donner une information. Il m'est arrivé, à l'époque où il y avait des chroniques de télévision dans les journaux, dans le Matin de Paris, dans Le Monde, etc., il est arrivé au moins à une reprise, peut-être deux, que je vienne à la télévision habillé autrement, parce que je ne suis pas non plus un monomaniaque. Eh bien, le lendemain, j'avais droit à l'article BHL et son éternelle chemise blanche, alors que on m'avait vu la veille au soir avec un t-shirt noir.
Bon, je ne veux pas vous contrarier, votre chemise blanche n'est pas n'importe quelle chemise blanche, mais surtout dans le portrait que Mitterrand fait de vous, portrait élogieux, il dit Bernard-Henri Lévy, dandy. Un dandy, c'est quelqu'un qui, notamment, prête attention à son apparence. Dandy, ça vous plaît? Vous assumez ce qualificatif?
D'abord, pour moi, dandy, c'est certainement pas quelqu'un qui fait attention à son apparence. C'est quelqu'un qui prête une grande attention au style de son intervention dans le monde. Dandy, c'est Baudelaire. Baudelaire, le souci de l'apparence, il existait aussi, mais enfin, c'était très secondaire. Ce qui était beaucoup plus important dans le dandysme baudelairien, c'est, ou de Barbé d'Orvilly, c'était une certaine relation aux autres, au monde, un art de la distance et de la proximité, une façon de considérer les communautés humaines, de participer ou non à leurs grandes effusions et à leurs religions communautaires. C'est plutôt ça, le dandysme. C'est trop le réduire que d'y voir question d'apparence. Et à mon avis, François Mitterrand était trop lettré et trop informé de la chose pour penser uniquement à la couleur de ma chemise, sûrement pas.
Voyageur, à cette époque-là aussi, donc ce début au Bengale devient une sorte de composante de votre vie, vous entamez de nombreux voyages, et notamment des voyages au Pakistan, des voyages dans des zones qui ne sont pas des zones traditionnellement touristiques, avec à chaque fois un conflit ou en tout cas une dimension politique forte. Pourquoi ?
Parce que, un, c'est important. Quand, après le Bangladesh, les premiers voyages que je fais, ça doit être le Pakistan et l'Afghanistan. Hein ? Donc l'Afghanistan à l'époque, en guerre contre les Soviétiques, etc., ça me semble vraiment important. Mais deuxièmement, j'aime ça. J'aime cette expérience du corps et de l'âme qui consiste à devenir un peu un autre que soi-même. Voilà, commandement foucauldien de Michel Foucault, hein, surtout pas devenir soi-même, hein, deviens celui que tu es, non, deviens celui que tu n'es pas, deviens un autre. Moi, c'est ça que je pense et que je mets en bonne place dans ma manière de penser et de me conduire en ce monde. Le voyage, c'est ça, ce genre de voyage, le voyage aventureux, le voyage tel que l'a pratiqué Nizan à l'époque d'Aden Arabi, le voyage, je ne sais pas, des premiers romans de Malraux, etc. C'est une expérience de soi qui fait que l'on s'étrangéise. Et moi, j'aime cela.
Vous aimez le risque ?
J'aime aussi le risque, oui. Pas de manière idiote. Je ne suis évidemment pas une tête brûlée ou un inconscient. Mais oui, j'aime le risque. D'abord, je pense qu'il est légitime quand la cause est noble, quand l'essentiel se joue, il est légitime, pour en témoigner, de prendre des risques, c'est juste. Et puis, il y a quelque chose dans l'expérience du risque et dans l'expérience de soi-même que l'on a avant et que l'on a après, hein, le sentiment de vivre que l'on a dans ces moments-là et que l'on a après, il y a quelque chose qui, là encore, est un de mes moteurs.
Pourquoi, dans ce cas-là, ne pas vous engager dans un conflit ? Vous avez écrit quelques années plus tard « La guerre sans l'aimer », Bernard-Henri Lévy. Pourquoi ne pas avoir décidé de prendre les armes, je ne sais pas, en Bosnie ou ailleurs, peu importe d'ailleurs l'endroit, mais en tout cas de franchir ce pas comme l'a fait, par exemple, Malraux ?
Parce que je pense que ce n'est pas ce que je peux faire de mieux. Je pense que ce que je peux faire de mieux pour défendre la cause des Bosniaques, pour défendre la cause des Afghans ou autres, c'est faire des films, c'est écrire des livres et c'est parler. Voilà, faut connaître ses limites. Vous savez, j'ai eu cette conversation en 1993, un an après le début de la guerre de Bosnie, avec l'incarnation de la résistance bosniaque à l'époque, Alija Izetbegović. Il y avait une grande émotion en Occident, en France et à Paris en particulier. Et je lui ai dit, président, pourquoi ne pas faire une brigade internationale pour la Bosnie-Herzégovine ? Et il me répond, avec un peu d'ironie d'ailleurs peut-être, je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de vos talents militaires. Par contre, et parce qu'on a beaucoup de soldats, parce qu'ils sont très courageux, parce qu'ils sont maintenant très aguerris après quelques mois de combat contre les Serbes, mais en revanche, si vous savez tenir une caméra, si vous êtes prêt à venir passer quelques semaines ou quelques mois à Sarajevo assiégé, welcome. Ça, on est preneur. Parce que là, vous aurez... ça sera un appel à l'action, ça sera un appel aux opinions, et là, vous nous renforcerez. Donc, voilà, question d'efficacité, entre autres. Et puis, question de goût. J'ai tenu un fusil une fois dans ma vie, avec le fils du commandant Massoud, il y a quelques années, dans une espèce de parade de cavaliers kesséliens. C'est dans le film Une autre idée du monde, la scène est là, elle n'est pas secrète. Une sorte de parade de jeunes commandants du fils Massoud et de vieux commandants du père. Et là, il y a une sorte d'exercice de tir. J'ai eu horreur de ça. C'est vraiment pas mon arme, le fusil. La caméra, le stylo, oui, là je me sens moi-même.
En 1984, Bernard-Henri Lévy, vous changez de type d'exercice puisque vous publiez un roman « Le diable en tête ». Pourquoi avoir décidé de changer de genre littéraire ?
On ne décide pas. Toujours la même chose. Le livre précédent, enfin l'aventure de l'esprit précédente a résolu des questions, en a laissé d'autres pendantes, et puis... Il faut continuer. Et parfois, le relais, hein, comme un relais de poste, parfois le relais, c'est un autre livre, parfois le relais, c'est un article, parfois c'est un autre genre, parfois c'est un film. Mais c'est vraiment comme ça que ça se joue. 84, enfin 82, d'ailleurs, je me rappelle très bien, je sors de l'idéologie française, je veux continuer cette histoire-là, je veux mieux comprendre ce qui s'est passé dans la France de l'époque, dans la France de Vichy, la France des années 80, ça s'impose à moi. Des personnages me viennent, voilà. Et ce roman, Le diable en tête, en effet, il racontait l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle, entre les années 30, la scène de l'idéologie française telle que je l'avais décrite dans le livre, et puis l'histoire de l'après-guerre, le gauchisme, le terrorisme, l'action directe, les brigades rouges, tout ça, là, c'est le roman qui s'est imposé à moi. Mais c'est jamais des... Vous savez, on prend peu de décisions, finalement, quand on est écrivain, je pense. Un véritable écrivain, il décide pas tant que ça. Ça vient.
Merci, Bernard-Henri Lévy. À demain. C'était À voix nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Hervé Dubreuil, réalisation Félicie Faugère, une série de Guillaume Erner à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.